parole du jour avec le Père Willem.
Dieu couvre notre honte. La honte abîme l'homme, elle le touche à terre. Elle le couche vraiment au niveau le plus bas, humilié. Dieu ne supporte pas la honte que l'homme peut éprouver devant ce qu'il est lui-même Dieu. Loin de la condamner, loin de l'accuser, Dieu au contraire restaure l'homme qui ne craint pas de se tourner vers lui. Il l'accueille avec tout ce qu'il est, clair ou obscur. En revêtant Adam d'une tunique de peau après la chute, il recouvre sa honte. Il recouvre cette honte pour qu'il retrouve toute sa dignité et la splendeur de l'humain. Dieu recouvre en nous ce qui n'est pas à son image et restaure ainsi notre ressemblance à son image. La tunique dont Dieu nous revêt est peut-être celle que le Christ laisse à l'heure de sa mort. Sans couture, tissé d'une seule pièce à partir du haut, métaphore de sa miséricorde. Si Dieu lui-même couvre la faute de qui se tourne vers lui, l'accusateur n'a plus de prise, il a définitivement perdu. Vivre sans jugement et sans préjugé, voilà le signe de la paix de Pâques. À l'heure de sa mort, le Christ laisse à ceux qui sont là sa tunique, la seule chose qui lui reste. Il la leur laisse en partage, afin que, tiré au sort, elle échoit à l'un ou l'autre des soldats. Il nous la laisse. Elle est pour nous, pour chacun. Car ce qu'il veut, c'est que nous soyons revêtus de sa vie, recouverts, abrités par lui. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce à partir du haut. Lire, à cette heure si grave, des considérations techniques de couture qui nous apprennent que la tunique du Christ était tissée non seulement d'une seule pièce, mais en plus à partir du haut, ne peut que nous laisser perplexes. À quoi bon tous ces détails? Mais cette perplexité peut aussi être le point de départ d'une enquête. Quel est le sens de cette tunique? Qu'a-t-elle à nous dire? Y aurait-il un fil à tirer que nous ferait traverser toute la Bible et, à travers ce fil, un enseignement à recevoir? Cette lecture en forme d'enquête est à la fois sérieuse et gaie. C'est un vagabondage au pays des tuniques de peau, des tuniques de lin. Une lecture qui peut surprendre, où l'on rencontre des tigres, mais aussi ceux qui se moquent de l'autre. On peut aussi rencontrer la pudeur, la nudité, la honte, la peau de l'homme et les vêtements qu'il se choisit pour s'habiller. Ne soyez donc pas surpris de l'aspect vagabond de ces émissions. En laissant ici un petit caillou blanc, nous finirons par retrouver notre chemin. C'est évidemment une réflexion qui parle la langue de l'expérience chrétienne de Dieu, mais il est d'autres langues pour dire autrement l'expérience que l'on peut faire de Dieu. La première des tuniques se trouve dans la Genèse. Alors en route, allons-y. Comme dans toutes les grandes histoires, il faut commencer par le commencement. Dans le premier récit, la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre image, comme notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Cette ressemblance d'Adam à l'image de Dieu sera transmise à ses fils et aux fils de ses fils jusqu'à nous. C'est notre ressemblance à Dieu. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et lui donna le nom de Seth. Voyez en Genèse, au chapitre 3, verset 3. Adam, dont le nom signifie « le terreux », à la fois homme et femme, est fait à l'image et ressemblance de Dieu. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature, nous dit la sagesse au chapitre 2. Voilà la première demeure de l'homme, son premier habitat, l'image et la ressemblance de Dieu. Peut-être que c'est cela, l'Éden, non pas un lieu, mais un mode d'être habité avec Dieu. L'habit, l'habitat et l'habitus ont même racine. Aux origines de la vie monastique, l'habitus est une manière d'être, un style de vie qui se manifeste par un lien habitable, non pas strictement géographique, les monastères, mais un lieu pour la vie commune, ainsi qu'une manière de se vêtir, un habit. La description d'un vêtement extérieur, l'habit est toujours ainsi la description d'une manière d'être. Nous savons bien qu'il en est toujours plus ou moins le cas. Yves Plantier, qui enseignait la philosophie en prison, a découvert que les jeunes qu'il y côtoyait dépensaient beaucoup en vêtements. Trois fois plus par eux en moyenne que les autres lycéens et des lycéens aisés. Leur uniforme devait toujours être neuf, constitué de survêtements et de baskets de marque, si possible blancs. Comme un habit riche de pauvres, voilà. L'habit marquait bien leur mode d'être, leur manière d'habiter le monde, et ce, d'autant plus, leur logement. Ils n'avaient que cette cellule, mais dans cette cellule, un habit. Un habit pour exister, pour se manifester dans leur singularité. Au commencement, Adam, homme et femme, non seulement habitent chez Dieu, mais habitent Dieu lui-même. Il n'y a pas de différence entre sa manière d'être et celle de son Créateur. Peut-être que la nudité d'Adam, c'est tout simplement cela. Gageons, par anticipation, que ce récit des origines ne nous raconte pas seulement l'histoire d'un paradis que nous aurions perdu, mais bien davantage ce à quoi nous sommes appelés tous, habiter avec Dieu, habiter Dieu. C'est bien d'ailleurs ce que dit Paul dans son épître aux Éphésiens, quand il affirme avec force que nous sommes élus par Dieu, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Et ce « nous », disons-le haut et fort, embrasse tous les hommes. Être saints et immaculés en la présence du Créateur, voilà la vocation profonde de l'homme, celui qui habite avec Dieu, au plus près de Dieu, vit dès maintenant dans cette sainteté. Celui qui aime est abrité par l'amour de Dieu, recouvert, et le péché est éloigné de lui. »